Audiolib présente Des cœurs dans la tourmente. Alban, tome 4, de Marie-Bernadette Dupuis. Lue par Sophie Lefay. Je dédie cet ouvrage à mes enfants et petits-enfants chéris, Isabelle, Yann, Louis Gaspard et Augustin Dupuis, qui m'entourent de tout leur amour et me soutiennent fidèlement, ainsi qu'à ma très chère et dévouée Guillemette, elle qui veille sur moi chaque jour, et aussi notre ami Fabien, un amoureux des livres. Tous deux, chacun à leur façon, sont un peu mes anges gardiens au quotidien, et je leur en suis infiniment reconnaissante. J'espère que ce quatrième et dernier tome leur plaira. Il y avait tant à dire. Note de l'auteur. Chers amis lectrices, chers amis lecteurs, je pensais que le sang des justes mettrait fin à ma saga Alban. Le destin en a décidé autrement. Et je suis ravie de vous présenter le quatrième volet de cette série. Comment expliquer ce petit coup de théâtre? Tout d'abord, je n'avais pas envie d'abandonner mes personnages en pleine guerre, quand bien même un épilogue aurait pu vous renseigner sur leur avenir. Il me fallait poursuivre l'aventure entre les murs du vieux château si cher à Alban, faire vivre encore Maria, Amédée de Séguilière, Lydie, Raphaël et leurs amis. De plus, j'avais à cœur d'évoquer les tragiques événements qui s'étaient déroulés à Brantôme et en Dordogne au printemps 1944, mais aussi la libération tant espérée et ses conséquences. Je vous invite donc à rejoindre de nouveau Alban et les siens, au cœur de la tourmente, et je vous souhaite une bonne lecture. Je redirai également, comme dans chacun de mes romans, que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait fortuite et indépendante de ma volonté. Marie-Bernadette Dupuis. Chapitre 1. L'heure des doutes. Dordogne, forêt de Vieillecourt, lundi 7 juin 1943. C'était un jeune homme de 17 ans. Les poignets liés derrière le dos, il se tenait tête basse, le dos un peu voûté. Son visage portait de vilaines traces de coups et du sang séché maculait son menton.
« Je suis innocent !»
répéta-t-il pour la troisième fois, sans oser regarder les 8 maquisards qui l'entouraient.
« Je vous dis que j'ai rien fait. Pourquoi vous me croyez pas ?»
Debout en demi-cercle, il se posait en juge ce jour-là, sur la foi d'un unique témoignage. Seul un d'entre eux ne braquait pas son fusil sur lui.
« Si vous exécutez ce gosse sans preuve solide, vous ne valez pas mieux que nos ennemis. »
déclara-t-il soudain en jetant son arme sur le sol. Sur ces mots, Raphaël Wendling se tourna vers le docteur Géraud, dont l'attitude l'inquiétait.
« Faites quelque chose, Joseph, »
ajouta-t-il à mi-voix.
« Je ne suis pas venu pour régler ce genre d'affaires, »
répondit le médecin.
« Alors disons que vous tombez mal, docteur, »
fit remarquer Boris Servinsky.
« De toute façon, Wendling, il n'y a pas à débattre. Ce gars a dénoncé un résistant, et son père est un collabo notoire. Nous avons voté la peine de mort. »
« Donc je n'ai pas mon mot à dire, » protesta Raphaël. « Pourquoi ? Avec Vincent, nous étions chargés de rester au camp pour construire des abris, et vous revenez à l'aube avec un gamin bien amoché qui crève de peur. Pour ma part, je n'ai pas voté. Tiens compte de ça, Boris. Je suis contre l'exécution de ce garçon. »
Raphaël adressa un coup d'œil significatif à Joseph Géraud qui reçut le message.
« Avez-vous le droit de procéder à une mise à mort sans l'accord de votre chef ?»
interrogea celui-ci.
« Je dois le rencontrer aujourd'hui ici même, en tant que coordinateur des mouvements unis de résistance. Comme vous le savez sûrement, du moins je l'espère, Raymond Berggren a été arrêté le 28 mai dernier.
« On est au courant. Est-ce vous qui lui succédez ?»
hasarda Boris.
Oui, provisoirement. La décision finale viendra de haut. Quant à votre suspect, je vous conseille d'attendre fort qui tranchera sur son sort.